Et c'est donc la deuxième partie de cet épisode interminable de fin d'année de La Terre à Boire. Et l'idée, c'est maintenant de se faire plaisir. On va goûter quelques jolies bouteilles que vous avez dénichées, que vous avez sorties de vos caves. Et on va en profiter pour parler un peu des choses qu'on a envie de faire sur 2021 et des projets qui sont déjà bien bien concrets pour l'année qui va s'ouvrir et qui va vite nous faire oublier cette année 2020 un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous. Laurent, le premier vin qu'on va boire...
C'est moi.
C'est toi. C'est une belle flûte alsacienne.
Trop peu de gens pensent à l'Alsace, ou beaucoup trop d'a priori sur l'Alsace, hein, les vins trop sucrés, les vins trop sulfités qui donnent mal à la tête, je ne sais pas quoi encore. Malheureusement, la communication de l'Alsace, je la trouve toujours un petit peu vieillotte.
Oui, j'allais dire c'est une idée fausse, mais c'est surtout une idée datée, parce que ça a été vrai
exactement,
à une époque que
exactement.
Les Alsaciens faisaient des vins un peu amples, un peu gras, un peu lourds.
Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais bon, c'est des choses qui évoluent. Et puis bon, là, alors ça remonte à quand? Ça remonte à début 2018.
À la première saison, on a exploré
l'Alsace. Début 2018, où on avait interviewé pas mal de vignerons et des gens qui travaillent bien, qui sont modernes, qui font des choses super bonnes. Mais je me rends compte en discutant avec les clients que l'Alsace, c'est pas une idée de région quand on a envie de se faire plaisir sur du vin. C'est malheureux. C'est alors sur les blancs déjà c'est compliqué, mais alors sur les rouges, les a priori sur le Pinot Noir d'Alsace, c'est juste à tomber par terre, à croire qu'il y a que la Bourgogne. Je sais que Patrice pense qu'il n'y a que la Bourgogne.
Absolument faux.
Non.
Mais
quelle
bon,
attaque.
On a toujours cette petite dent, toujours cette petite, ces petits petits échanges sur la Bourgogne. Moi, j'essaie justement de convaincre mes clients que quand on aime le Pinot Noir, il faut goûter d'autres choses. Il faut aller
en Loire.
Il faut aller évidemment en Alsace, dans le Jura, bien évidemment. Il y a moyen de se faire vraiment plaisir avec des jolis Pinot Noirs en Alsace. Bon, là, ce soir, j'ai apporté un Riesling. Bon, c'est pas très original. Hein. C'est quand même le premier cépage d'Alsace. La particularité, donc, c'est un grand cru. Donc vous savez que en Alsace, il n'y a pas d'appellation, on va dire locale. On a une appellation Alsace, on a une appellation Grand Cru d'Alsace. Puis après, dans chaque Grand Cru, il y a une cinquantaine de Grands Crus. Là, on est sur un Sommerberg. Sommerberg, donc du domaine Ebinger. Donc moi, je travaille bien avec Denis Ebinger depuis quelques temps déjà. C'est un domaine qui a petite notoriété, hein, qui est pas très connue. C'est un domaine qui travaille en biodynamie depuis déjà une bonne quinzaine d'années, qui fait des vins que j'aime beaucoup, sans faire de tapage. Ils sont basés à Eggisheim, donc pas très très loin de Colmar. Et ils ont une grosse dizaine d'hectares de vignes. Sur des grands crus et puis évidemment sur d'autres terroirs. La particularité de ce domaine, maintenant c'est quand même quelque chose qui se répand pas mal en Alsace, c'est de se dire que l'Alsace n'est pas un ensemble unique et monotone. Donc se contenter d'une appellation Alsace, c'est un peu ridicule. Donc ils sont vraiment en train de mettre en avant les terroirs et non plus de dire voilà, ce qui est important c'est le cépage et puis voilà, on est alsacien et c'est du cépage. Non, ça cette approche du vin en Alsace, je pense qu'elle est un peu révolue. Il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont prises en ce sens. Et Denis, qui a repris donc en partie le domaine il y a quelques années maintenant, 4-5 ans, avec ses parents, est un fervent défenseur du terroir, de mettre en avant le terroir avant de mettre en avant le cépage en Alsace. Bon, comme tous les grands crus, hein, donc c'est des vignes qui sont en coteaux. C'est un des grands crus les plus difficiles à travailler. Hein. La pente fait au moins 45 degrés, voire jusqu'à 70. Donc ça se travaille au chenillard quand on veut travailler dans la vigne, quand on veut désherber, etc.
Et ça se vendange à la main.
Oui, ça se vendange à la main.
Ça va sans dire.
Ouais, ça se vendange à la main. Donc c'est un coteau qui est exposé plein sud. Donc il y a beaucoup de soleil, beaucoup de sécheresse. Il se trouve qu'en plus le sol est très caillouteux. Il y a quasiment pas de sol. C'est que du caillou. Bon, il y a quelques sources qui passent en dessous et qui amènent quand même l'eau nécessaire aux vignes. Mais c'est vraiment un terroir qui recueille énormément de soleil. Et je pense que là, sur 2016, on est sur un millésime 2016, ça se voit bien. Ça se voit bien dans le sens où on a un fruit très très mûr et puis que les fermentations sont peut-être pas allées jusqu'au bout. Que ça a un peu patiné pendant une bonne dizaine de mois. Et on a un petit peu de sucre résiduel. Donc, désolé pour ceux qui cherchent du très sec. Là, on n'est pas sur du très sec. On est sur du fruit très gourmand.
C'est pas non plus moelleux, hein. C'est pas un vin moelleux du tout. C'est quand même un vin sec, mais il est un peu corpulent, quoi.
On a de l'opulence, on a de la générosité, on a de la gourmandise. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce type de vin. Hein. Enfin bon, j'aime tous les types de vins, je crois, à partir du moment où ils sont bien faits. Et j'aimerais plutôt avoir vos retours dessus.
Patrice Riesling.
Pour revenir sur le débat alsacien qui eux-mêmes se tirent dans le pied, je conseillerais juste d'écouter. C'est le raisin et les papilles, hein, c'est ça le...
Du raisin et des papilles.
Du raisin et des papilles. Voilà l'émission de Jean-Michel Dice qui est en deux épisodes. Je pense que Dice dit tout. Et puis s'il y a quelqu'un qui peut se revendiquer d'avoir un discours.
Oui, c'est un des pionniers
de la réflexion sur le terroir. De la géosensorielle, de la réflexion sur le terroir, c'est lui. Donc, bon, je conseille quand même de. Alors, il est très bavard, il dit plein de choses, c'est extrêmement dense. Mais en 2 heures de temps, on apprend à peu près, je pense, l'essentiel de ce qu'il faut apprendre sur l'Alsace. Donc, je conseille juste d'écouter ça, parce que c'est plus simple d'aller écouter que de mon discours.
Clin d'œil à Michael et Adrien qui animent le raisin et des papilles.
Encore une fois, c'est
en Alsace.
Je pense que ce que dit Dice, c'est assez révélateur. Et pour moi, c'était une révélation, en tout cas, sur pas mal de sujets pour ce qui concerne l'Alsace. Après, sur le vin, oui, moi, c'est pas le vin. Moi, Riesling Sommerberg, pour moi, j'ai pas de domaine de prédilection, mais c'est vrai que je le connais un petit peu à travers Boxler. Donc là, je sais pas si c'est les millésimes ou pas. J'aime bien, c'est bien, c'est équilibré, mais l'empreinte soit millésime, soit l'empreinte sucre résiduelle me gâche un peu ou me cache un peu plutôt l'effet terroir et je retrouve pas. Alors peut-être que c'est juste mes référentiels hein, et que c'est pas ce qu'il faut aller chercher, mais je retrouve pas complètement entre guillemets encore une fois l'intensité, le côté un peu peps pétillant qu'on peut normalement aller chercher sur le Sommerberg. Donc j'aime bien. Je pense que c'est un bon vin de sur plein d'accord. Plat, mais enfin le vin en lui-même, voilà.
Tu restes un peu sur ta faim, toi.
Ben voilà. Je pense qu'en accord, c'est bien. Le vin seul, parce qu'en plus là, on n'a pas beaucoup d'accord, à part effectivement le fromage au cumin qui lui répond pas trop mal.
Oui. Effectivement,
c'est l'exception, mais c'est peut-être la faiblesse de nos accompagnements qui fait ça. Plus que.
Ou
plus que
loin. Une petite terrine, des
fromages. Non, t'as super bien bossé, je critique pas. Moi, j'ai rien amené, j'ai rien à dire. Je pense que voilà, moi, je le vois plus en accompagnement je pense que je prendrais plus de plaisir dans l'accord que dans le vin lui-même.
Et encore une fois. Quoi comme accord avec un Riesling comme celui-là?
Bah, écoute, ce fromage au cumin, ça passe pas mal du tout. En petit accord, on va dire ça comme ça, en accord mineur. Après, en accord majeur, encore une fois, les classiques. Les classiques de la cuisine asiatique épicée qui marchent toujours très très bien
avec les choses un petit peu sucrées.
Ouais.
Là, quand je dis un peu sucré, non, on est vraiment sur de la gourmandise, pas du sucre. Hein.
Et donc, c'est quoi le projet là? C'est de référencer les terroirs.
Donc effectivement, depuis 4 ans, il y a un collectif de jeunes vignerons alsaciens là, d'une cinquantaine de personnes déjà qui essaient de pousser un petit peu ce renouveau de l'Alsace. Et au sein de ce groupe, il y en a un certain nombre, dont Denis Ebinger, qui ont travaillé sur le fait de répertorier tous les lieux dits et d'essayer d'identifier, parce que
c'est un peu un travail bourguignon malgré tout.
On est d'accord, on est d'accord.
On cherche les climats d'Alsace.
Ce qu'il faut savoir,
la mosaïque de terroirs,
c'est qu'on passe de l'appellation Alsace à l'appellation Alsace Grand Cru. Donc l'idée, ça serait peut-être
d'avoir des
premiers crus et donc d'identifier les terroirs qui se. Oui, on est sur une approche dite bourguignonne.
c'est un peu une normalisation, enfin, normalisation, je sais pas si c'est le bon terme, mais l'Alsace entre dans la cartographie plus habituelle du terroir français, alors que jusqu'ici, l'Alsace, c'est un peu une exception.
C'est clair, l'Alsace, enfin, quand je fais des ateliers de dégustation, j'explique un petit peu la façon dont le vieux monde, type France, Espagne, Italie, etc., fonctionne par rapport au Nouveau Monde en termes de façon de répertorier le vin, c'est-à-dire de mettre en avant, nous, on met en avant des terroirs en général, alors que Nouveau Monde met en avant des cépages. Bon, l'Alsace travaille comme si c'était le Nouveau Monde. Un peu, c'est du Riesling, et puis c'est en Alsace, et puis démerdez-vous.
c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est historique. C'est comme ça qu'on travaille en Alsace depuis très longtemps.
Mais c'est quelque part dire que le Riesling, il va avoir la même, le même style. Alors, effectivement, quand on a cette expérience de la Bourgogne où au mètre carré on est capable de définir un terroir différent en disant de ce côté du mur c'est ce premier cru, de ce côté là c'est un grand cru, etc., on est vraiment aux opposés quoi sur la façon de travailler, et donc l'Alsace se pose des questions et se dit que peut-être il y a moyen de créer un référentiel différent, une façon de travailler différemment.
Et là pareil, je renverrai au dernier bouquin de Jacques Errigo qui parle, qui s'appelle le vin dans le monde d'aujourd'hui, qui a été publié pas très très longtemps, et c'est il part de là en fait, il parle des deux paradigmes en disant il y a les vins de cépage d'un côté et les vins de terroir de l'autre, et donc et la guerre entre guillemets, ou en tout cas il part de ce postulat là qui disait que au début à l'époque de Parker, on va dire 2000-2010, il y avait un journal américain du vin qui disait la guerre a été gagnée par le Nouveau Monde entre guillemets. Il parle de ce postulat-là. Et après, le principe du cépage, c'est l'uniformité, c'est le fait de se dire qu'on peut faire du Cabernet Sauvignon. Alors, ce qui est pas impossible, mais c'est l'argument marketing de dire que le Cabernet Sauvignon, qu'il soit en Australie, qu'il soit au Chili, qu'il soit à Bordeaux ou qu'il soit dans le sud à la Grange des Pères, c'est la même chose.
Ou en Toscane.
Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une question de postulat et de positionnement. Et donc le fait de se dire que justement la spécificité, la diversité, le contraire de l'uniformité, la qualité et la beauté des vins, elle est normalement plutôt dans la diversité, dans les vins de terroir. Bon, voilà. Donc, le bouquin de Rigaud développe beaucoup ces choses-là, et l'Alsace n'a pas choisi son positionnement. Et donc, je dirais les vrais beaux vignerons qui travaillent sur des approches de proximité artisanale, etc. Des Dais, on en connaît d'autres, tous ceux qu'on a pu croiser, des binaires, des flights, etc. On va essayer de travailler sur les terroirs et reviennent sur mettre en avant le nom du lieu dit versus le nom du cépage. Voilà. Mais apparemment, c'est la profession ou l'interprofession, comme on dit, d'Alsace qui a pas encore réussi à virer sa cutie de ce point de vue-là.
Ce qui est fou, c'est de penser que l'Alsace est probablement une des régions où la diversité géologique est la plus importante, parce que avec ce fait d'avoir les deux chaînes de montagnes, que ce soit les Vosges d'un côté ou la forêt noire de l'autre, la rivière au milieu, tous ces chambardements géologiques qu'il y a pu y avoir, on a vraiment des couches ultra varié
et un ensoleillement exceptionnel.
Alors, il y a ce qui fait la beauté des vins d'Alsace, parce qu'on est quand même très très au nord,
Oui,
pourrait penser que c'est difficile de
c'est ça, on
de
pourrait
faire,
le penser ouais,
de mais... faire du vin, mais il y a un ensoleillement qui est exceptionnel, et puis il y a effectivement la protection des Vosges aussi sur toute la partie humide, les Vosges protègent, servent de coussin protecteur contre l'humidité.
Ouais. Et puis la difficulté, si je peux me permettre, avec le réchauffement climatique, c'est ce que dit Dice beaucoup c'est que, en fait, il y a des, ça a plus lieu d'être, parce que le Gewürztraminer aujourd'hui n'est pas un vin, n'est plus, en tout cas dans son travail en sec, n'est plus un cépage qui peut être équilibré seul. Donc, enfin, ce que dit Dai, c'est que avec le changement climatique, il y a des cépages qui sont plus. Le Riesling va résister. Oui. Le Riesling peut résister encore longtemps.
Il y a des formules qui fonctionnent plus.
Voilà. Et le fait de se dire le Gewürz reste, on travaille sur l'aspect cépage versus l'aspect terroir. Bah, à terme, ça marche pas sur le Gewürz parce que le Gewürz aujourd'hui, enfin, en tout cas, c'est Dai qui projette ça. Je vais pas être plus expert que le roi d'Alsace, on va dire quelque part. C'est que, bah, en soi. À part en le travailler en sucre résiduel, en liquoreux ou en moelleux, il ne sera jamais, alors encore une fois, exception faite de ce fabuleux flight qu'on a bu ensemble.
Oui, c'est ça, j'allais t'opposer
il faut un magicien, quoi. Ouais. Il faut un magicien pour arriver.
Choisir les bons terroirs. Grand Cru Zinkopflé qui fait des. Enfin, avec le domaine Léon Boeuf, ils font un Gewürz Zinkopflé qui est sec.
Oui, mais. Voilà. En termes de posture marketing,
c'est vraiment la décision de choisir son terroir et s'attacher à ça.
C'est un ensemble qui évolue parce que justement, réchauffement climatique, donc les conditions vont
de plus en plus compliquées.
Ça va être de plus en plus compliqué, de faire du sec, alors même que c'est la tendance. Mais le Riesling, lui, il s'y prête.
Dieu merci, l'acidité du Riesling le préserve pour l'instant.
Oui, peut-être encore une fois, on l'a vu avec le rouge et le blanc, le Sylvaner peut sortir. Sur le temps long, en termes d'équilibre global du vin, en tout cas si on le travaille en monocépage, c'est pas du jeu, mais bon.
Alors moi, c'est un souvenir personnel, mais j'ai envie d'en parler. Quand on parle de l'ensoleillement de l'Alsace, il se trouve que j'ai habité un peu dans l'Est, et je faisais cette route de la Lorraine à l'Alsace, et c'est presque toujours magique de passer les Vosges.
Ah oui.
Ou quand t'es en Lorraine, tu viens en Lorraine, t'es un peu dans la grisaille, quand même, souvent, une partie de l'hiver. Et tu passes les Vosges et tu prends presque systématiquement un grand coup de soleil dans la figure parce que les Vosges arrêtent toute cette masse de nuages là. Bon, les Lorrains sont peut-être pas contents que je dise ça, mais les Alsaciens, ils ont une chance, c'est qu'ils sont tellement protégés. Il y a un soleil incroyable en Alsace presque tout le temps, même au cœur de l'hiver. Quoi. On se croit
dans le sud. Explorer le vignoble lorrain.
Oui, parce qu'il y a aussi du vin en Lorraine, t'as raison.
On ne pense pas très souvent, mais.
Le gris de Toul.
Mais il y a quelques domaines qui travaillent très bien dans la partie, justement, est, mais la Lorraine.
Bah, tiens, merci pour cette transition, Laurent. On va goûter un deuxième vin, mais je vais sauter sur cette occasion pour parler un peu des choses qu'on a envie de développer en 2021, des thèmes. On avait fait cet exercice-là l'année dernière aussi. Pour tout te dire, je ne sais pas si on a parcouru tous les thèmes qu'on avait prévu de faire. L'année a été un petit peu agitée. Mais voilà. Et parmi les thèmes dont on s'est parlé, il y a justement d'aller chercher les nouvelles régions du vin. On en a parlé dans l'épisode précédent avec Romain Becker sur la Loire volcanique, donc le Forêt, l'Auvergne et ses vins, le renouveau, la renaissance de ce vignoble du cœur, du centre de la France. Mais il y a d'autres régions qui se mettent à faire du vin, et peut-être on en fait dans le passé, mais il y a l'Île-de-France, on en a parlé un petit peu, la Normandie, la Picardie, il paraît qu'il y a des vignes à Quimper.
Oui, tout à fait, oui. Un petit vignoble à Quimper.
Un vin breton bientôt, un jour.
Oui, non, mais il faut garder les yeux ouverts sur le monde. J'ai encore trop de clients qui pensent que la France, ça se résume à Bordeaux et à la Bourgogne. Hein. Il y en a qui ne connaissent pas autre chose, donc... Il faut vivre avec son temps, il faut ouvrir les yeux.
Alors là, on est deux coups en avance, parce que il faut déjà leur expliquer, il y a le Languedoc, il y a la Loire.
Qui pense que le Languedoc, c'est la piquette.
Il y a l'Alsace, il y a le Sud-Ouest. Et puis, ceux qui ont déjà franchi ce cap, on peut dire, il y a même des gens qui essayent de faire du vin dans des régions qui n'en faisaient pas jusqu'à présent ou qui n'en faisaient plus depuis longtemps.
On a vraiment survolé le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, cet été, j'étais encore à traîner mes guêtres du côté de Marcillac, donc dans l'Aveyron. Là aussi, il y a des choses très sympas. Et moi, ce que j'aime, c'est me balader dans le vignoble et ne pas voir que des vignes. Donc là, pour le coup, Marcillac, ça se prête bien à ça. C'est des paysages variés et des cépages qui sont peu connus. Et puis des vignerons qui se posent des questions, qui font des choses. Et puis bon, les conditions de travail qui sont difficiles, qui font que finalement ceux qui bossent là-bas, c'est des vrais, quoi. C'est pas des gens qui sont là pour faire du volume et essayer de gagner un maximum d'argent. C'est pas le sujet. C'est le sujet de faire des bons vins.
De toute façon, le sens de l'histoire veut que, de toute façon, tout ce qui va être nouveau, ça sera de plus en plus au nord. ou alors de c'est plus vrai. En plus en altitude.
Oui. Voilà.
Donc
oui.
C'est les deux axes. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va dans la Loire. C'est pour ça qu'on remonte en Normandie, en Picardie pour faire du vin, malheureusement.
Bientôt en Angleterre.
Ouais, bah, il y a déjà
des vignobles
des vins mousseux.
Mousseux
en Angleterre. Oui, je crois même qu'il y a des domaines champenois qui achètent,
bien sûr, qui achètent des
terres en Grande-Bretagne. Mmh. Voilà. Alors ça, c'est un des thèmes qu'on peut aborder. Il y a aussi quelque chose qu'on prépare. Allez, je vais faire un grand coming out. On prépare un truc qui va peut-être vous intéresser, j'espère. Il y aura une cuvée, La Terre à Boire, qui sortira ou quelque part entre février et mars 2021. Voilà. Qui sera notre vin, qui sera un vin du podcast. Ce sera la première fois qu'il y a un vin de podcast. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un vin de podcast.
Les paris sont ouverts. Quel cépage, quelle région.
Bon, alors, tu as raison.
On a la chance. Il faut rien dire.
Ah oui, tu dis rien, toi.
Ah, pour l'instant, il faut rien dire. Il faut laisser, au contraire, donnez-nous vos idées. Qu'est-ce qui va être notre cuvée, à votre avis?
Ou ton Rothschild.
Après nous avoir écouté 70 épisodes, qu'est-ce qui fait que on a choisi telle ou telle région, telle ou telle cépage pour notre cuvée, La Terre à Boire? Les paris sont ouverts.
Voilà. Alors, les paris sont ouverts. Les auditeurs et auditrices fidèles, à mon avis, auront déjà quelques éléments de réponse. Mais il y a autre chose qu'on va lancer, c'est que comme on lance une cuvée, on peut... Voilà, imaginez une bouteille avec un nom, La Terre à Boire, et puis on aimerait bien imaginer une étiquette aussi. Alors l'idée, ce serait de lancer un concours d'étiquettes à ceux qui auraient envie de dessiner, ou faites décider vos enfants si vous voulez. Voilà,
on peut appeler Michel Tolmer ou pas?
Ah bah avec plaisir, mais je crois qu'il est un peu cher, Michel Tolmer, pour nos moyens.
Bon, on n'est pas de nom, non.
on va le mettre, on va communiquer sur les réseaux là-dessus, donner juste la dimension de l'image qu'on souhaite, et puis ceux qui ont envie de griffonner quelque chose, qui sont inspirés par l'idée d'une cuvée dérivée d'un podcast, et ben pourquoi pas, allez-y, faites-vous plaisir, et puis on va faire ce concours sur décembre, janvier, et puis quelque part, les dates n'ont pas encore arrêté, mais quelque part en janvier, on arrêtera les compteurs, et puis on se réunira, et puis on choisira, peut-être qu'on fera voter, je sais pas encore, pour choisir l'étiquette de la première cuvée, La Terre à Boire, millésime 4 du podcast, millésime 1 du vin. Ça vous plaît, ça?
Très bien, moi, tout va.
Et après, on fera la chronique de notre... Non, peut-être pas. On va juste le proposer à ceux qui voudront le goûter. Et puis on verra. Et puis si ça vous intéresse pas, ben on fera autre chose. Hein. C'est pas grave. Nous, de toute façon, ce qui nous amuse, c'est de goûter des vins et d'en parler. Pat.
My turn.
Moi, c'est ton vin maintenant. Ouais.
Alors c'est à la fois un coup de cœur pour le vin et puis un coup de cœur pour la démarche et les gens qui l'ont fait. Alors le vin déjà. C'est un cépage qui est assez peu reconnu, on va dire ça comme ça. Et en général, on le boit de manière assez acide avec des huîtres sur les tons de taux. Et c'est un Picpoul, donc c'est un monocépage Picpoul de 2018. Pour situer les tons de taux, hein, on est au sud de la France, à
tout près de 7.
Tout près de 7, juste derrière 7. Et puis là, il y a 1300 hectares de Picpoul, hein, comme on dit dans le coin. Sachant que le Picpoul, c'est un cépage qui a trois couleurs. Un noir, gris ou blanc. Le noir peut rentrer dans... Enfin, tous les Picpoul peuvent rentrer dans Châteauneuf-du-Pape. Seul le noir peut rentrer dans le Minervois. Et par contre, il y a une appellation, en tout cas pour le blanc, qui est connu en tant que tel, hein, qui est le Picpoul de Pinet.
De Pinet,
c'est 1300 hectares, qui est juste au nord de l'étang de Thau, entre 40 et 100 mètres de hauteur, sur les petits coteaux qui remontent.
Alors là, on est très au sud et pas très haut.
On est très au-dessus des patriotes, on n'est pas très loin de la mer.
Voilà. La fraîcheur, elle nous vient plus des embruns et de l'air marin.
On a des influences maritimes. Et puis, très honnêtement aussi, l'idée qu'on se fait du Picpoul, et c'est ce qui me semblait intéressant de cette cuvée, c'est que c'est un petit peu parfois ce qu'on fait en Champagne, c'est qu'on récolte les raisins un peu en sous-maturité pour garder beaucoup de verdeur et beaucoup d'acidité pour que ça se marie bien avec les huîtres, hein, qu'on va déguster sur les temps. Et c'est vrai que, en général, les Picpoul de Pinet, bah, ça, c'est sympa, mais ça pique un peu les dents, quoi. Enfin, c'est vif, c'est frais, ça se marrait bien avec une.
Un peu comme la réputation du muscadet.
Exactement. Voilà, exactement. Et là, justement, l'idée de ce Picpoul, c'est moi, c'est ce que je trouve intéressant. Alors, on va voir, c'est parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas bu, donc on va voir si ça se révèle. Encore une fois, c'est un cépage qui peut être équilibré, qui peut être plus complet que l'image qu'on en a, tout simplement en laissant. En travaillant bien les vignes et la terre, en poussant les maturités assez loin, c'est-à-dire quand les raisins sont vraiment mûrs, et puis juste pour garder quand même un petit peu de fraîcheur, c'est ce qui s'est fait sur ce vin là. On ramasse les raisins la nuit ou très 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 tôt le matin, quand il y a encore de la fraîcheur dans les vignes et avant que le soleil méditerranéen ne vienne taper sur les grappes. Et donc ce Picpoul là, donc il s'appelle tout simplement Picpoul. Alors Picpoul, vous savez d'où ça vient, j'imagine le nom. On dit que les branches du Picpoul allaient sur le sol et que justement les volailles prenaient un malin plaisir à les picorer, parce que c'était les seules vignes qui étaient à leur hauteur, à les picorer les grappes sur les vignes environnantes. Voilà.
Et alors ce Picpoul là. Voilà.
On peut le goûter, puis après on parlera de ceux qui le font, parce que c'est encore autre chose, un autre point qui est assez intéressant.
Allez, goûtons. Et là, ça va faire le blanc, le fameux blanc, vous savez. Tout le monde goûte en même temps.
Oui, non, mais alors je vais parler.
Il avait besoin de parler.
Non, vraiment. C'est amusant, parce qu'effectivement, il y a un petit côté perlant, là. Comme on peut le retrouver, d'ailleurs, dans les muscadets. Mais par contre... il y a encore beaucoup de gourmandise. Je m'attendais à tomber sur quelque chose, effectivement, de très vif, qui aurait pu être une espèce de gros choc après la douceur du Sommerberg. Autant là, finalement, on est sur le même registre, hein. On est sur quelque chose de, moi, je trouve très, très gourmand. Du fruit qui a été ramassé très mûr.
La pétillance peut venir aussi, ça c'est un peu la démarche globale des équilibristes, hein, les équilibristes qui peut être une très bonne définition de ce que c'est un vigneron. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien le nom aussi.
En recherche d'équilibre.
En recherche d'équilibre, et puis il y a des gens qui sont sur le fil, quoi. En tout cas, ceux qui travaillent sans béquilles, organoleptiques, de goût, de levure, exogène ou d'autres choses qui maquillent le vin, c'est un travail d'équilibre, vraiment sur le fil pour trouver l'équilibre de manière générale, et ça ne va pas s'appuyer sur des béquilles chimiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'un des moyens aussi, peut-être la pétillance, c'est lié au fait que parfois, comme ils mettent très très peu de soufre, ils se privent pas d'en mettre. C'est de garder un peu de carbo, c'est-à-dire de mettre en bouteille, de garder un petit peu de carbonique.
C'est de là, en général, que vient le perlant.
Voilà, mais de carbonique pour conserver le vin aussi. Donc ça peut être aussi issu d'une volonté. Donc là, c'est la volonté, c'était ça, c'était de montrer que le Picpoul peut aussi être un vin gourmand, équilibré, pas simplement vivre sur des huîtres.
Donc le domaine.
Le domaine, en fait, là, les équilibrés, c'est un projet, c'est un collectif. Ouais. Au départ, c'est François de Montval et Florent Giroux, François de Montval, qui est plutôt au départ restaurateur négociant, et Florent Giroux, qui est un vigneron du côté de Bergerac, domaine de Combriac, qui ont lancé ce projet. Et l'idée, c'est d'aller chez des vignerons pour faire un vin ensemble. Mais qui est différent de ce qu'ils font habituellement, avec un angle. Donc l'angle là, typiquement, c'était de faire un Picpoul charnu, on va dire ça comme ça, ou équilibré, ou pas du tout dans la vivacité qu'on a de Picpoul. D'un autre côté, ça va être de faire, je sais pas, un carignan blanc sur des mica schistes, etc. Donc à chaque fois, c'est un projet, en fait, entre guillemets, entrepreneurial, et c'est de faire une création à deux ou à trois, mais d'aller chez un domaine. Donc là, ils sont allés chez le domaine de Brideau, chez Pierre Farge, qui est donc du coup lui du côté de Montagnac, donc dans le sud, pour faire cette création. Et à chaque fois, c'est des créations from scratch. Aujourd'hui, ils ont 6 blancs et 5 rouges, et ils travaillent notamment avec domaine de la Madone, hein, Gilles Bonnefoy. Ils travaillent donc avec Pierre Farge, et je crois qu'ils sont 7 ou 8 aujourd'hui. Et donc j'invite à aller voir le site qui s'appelle leséquilibristes.fr. Sachant qu'au départ, ils ont un manifeste, c'est ça qui est intéressant, et dans le manifeste, c'est de se dire, on veut faire, les vignes, elles sont au minimum en bio et en biodynamie, si possible en biodynamie. Ensuite, il faut travailler le cépage sur son terroir, plutôt sur son terroir d'origine. On le fait bien sûr avec des levures indigènes. On essaye de faire respirer et d'aérer les sols. Et donc là, ils ont comme ça une dizaine d'injonctions qui guident le fait de faire des vins. Et puis à chaque fois, c'est une création nouvelle. Dans le connectif, c'est le fait de façonner des vins dans la rencontre et avec un angle différent à chaque fois.
C'est assez unique cette initiative. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Un collectif qui va donc convaincre des vignerons d'aller faire une cuvée particulière et qui vont la faire avec eux, voilà, avec un objectif, en répondant à cette charte, voilà, et avec un objectif précis, quoi.
Voilà, et c'est, avec une envie précise. Mmh. Et c'est à la fois une création nouvelle, mais qui est née de la fusion au minimum de deux vignerons. Hein.
C'est ce qui est écrit là, c'est marrant d'ailleurs, la formule sur la bouteille, c'est en équipe avec Pierre du domaine de Brideau. Donc c'est un vin qui est fait en équipe. Mmh. Les équilibristes, c'est pas un domaine, c'est comme un
collectif. Voilà.
C'est comme un label de gens qui vont amener les vignerons à créer un nouveau vin avec leur collaboration.
Exactement. Donc à la fois c'est une création, mais en même temps c'est un partage. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enrichissement mutuel à chaque rencontre, on va dire, pour lorsqu'ils fabriquent ça. Donc c'est tout bête et c'est génial.
Alors c'est amusant parce que le Picpoul de Pinay, je pense que la plupart des Français ne connaissent pas cette appellation.
Hein, comme il a un nom un peu rigolo, en général,
Si on va à l'étang de Thon, on connaît.
Voilà. Non, mais
si on a mangé des huîtres à l'étang de Thon, on connaît.
du marché, enfin des Halles de Sète, le Picpoul de Pinay, ça a zéro notoriété. Quoi.
Si vous allez faire un stage de voile à la base des Glénans.
Ce qui est très amusant, c'est que j'ai régulièrement des clients britanniques qui me demandent si j'ai du Picpoul. Et j'ai découvert qu'effectivement, le marché britannique a été un des marchés les plus travaillés par cette appellation pour faire connaître leur vin. C'est très curieux, plus que finalement la France. Mm-hmm. Parce que la notoriété, faut pas se voiler la face. Hein. Si t'es pas allé à 7, tu sais pas ce que c'est. Mm-hmm. Hein. Et moi, je comprenais pas. Ces Anglaises d'un certain âge qui venaient en groupe, là, qui me disaient « Ah, vous avez du Picpoul ». En l'occurrence, je n'avais pas.
C'est peut-être la prononciation qui est plus facile que Chardonnay ou Picpoul.
Et donc, je me suis dit, le nom a quelque chose de sympathique pour les Brits, je sais pas. Mais j'ai cherché à avoir un Picpoul dans ma gamme. Et donc cet été, une fois de plus, vu que l'été a été très long, cette année Covid, j'ai eu plein de vacances. J'étais du côté de Sète. Et j'ai dégusté les vins de la Croix Gratio en Picpoul de Pinay. Et j'ai découvert effectivement des vins qui étaient plus... pas aussi généreux que celui-ci, mais qui étaient effectivement sur un registre beaucoup plus ample, beaucoup plus...
Vineux presque, non ?
Oui, c'est ça. Que l'image que j'avais de ce que j'avais pu goûter il y a très nombreuses années.
Le truc qui déchausse les dents. Qu'il faut boire à 0 degré
depuis la rentrée. Depuis la rentrée, j'ai pas fait rentrer de Picpoul parce que j'ai pas beaucoup de clients.
Les Anglaises, elles vont revenir. Non.
Mais il va falloir travailler. Alors la question est de savoir si les Anglaises veulent un Picpoul qui déchausse les dents.
Faut en prendre deux.
Ou un Picpoul un petit peu plus élaboré. On va voir.
Tout ça pour dire aussi que il y a encore une fois certains cépages un peu de ceux qu'on considère, enfin, sachant que c'était un cépage qui était considéré comme noble jusqu'au XVIIe siècle. Il y avait 6 cépages nobles dans le sud. Et jusqu'au XVIIe siècle, le Picpoul en faisait partie.
Au XVIIe siècle.
Oui, jusqu'au XVIIe siècle.
Ah ouais.
C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédia. Et
on l'invitera un jour.
Mais oui, viens vite, Vicky. Ce cépage-là, du coup, a quand même un certain potentiel. Alors après,
bien sûr, non mais c'est évident.
Il est équilibré. C'est un petit vin. Là. C'est un vin de agréable, assez complet. C'est pas cher. C'est 12 euros la bouteille. Mmh. C'est encore une fois, c'est chaque fois chacune des 11 aujourd'hui créations des équilibristes sont des créations uniques et inédites et nées de la collaboration. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est entre vignerons, mais de toute région, quoi. Donc, il y en a de la Loire, il y en a dans le sud,
Les équilibristes, François, là, c'est dans toute la France.
Oui, il faut regarder leur site.
C'est typiquement une idée d'invitation.
Ah, bah oui, Florent,
j'inviterai très volontiers. J'avais voulu aller là, mais j'inviterai Florent Giroux la prochaine fois qui a l'initiative
Je suis emballé par cette démarche. Je trouve ça très, amusant, très moderne, assez marrant, plutôt bien pensé d'un point de vue marketing, storytelling, on va dire, mais, et même au niveau de la démarche envers le vin, très intéressant.
Ouais, puis commence à avoir une certaine autorité. Donc on peut trouver les vins sur leur site, hein, les équilibristes. On peut trouver aussi les vins sur le site du domaine Château de Combriac, puisque Florent est à l'initiative. J'imagine dans tous les. Oui. Chez tous également les vignerons qui participent au collectif. Et je l'ai même vu, en tout cas pour l'Hirsut, qui est plutôt une bonne presse, qui a un vin rouge. En tout cas, qui a une version rouge, une version blanche. Mais la version rouge a eu une bonne presse dans la RVF très récemment. On peut le trouver aussi. Je l'ai même trouvé sur vente à la propriété sur quelques bouteilles. Et en tout cas, pour ce Picpoul-là, en dehors du site, il est présent à la Côte de Bœuf. Rue des Moines,
c'est 27e, un restaurant.
C'est une épicerie en fait, une épicerie qui fait plutôt des, je dirais, de viande, etc. Enfin, des saucissons un peu de haut de gamme. Et je sais que le Picpoul des équilibristes est dans la vitrine.
Un très joli vin. Et bon, pour ceux qui habitent pas Paris, je pense que vous devez pouvoir le trouver.
C'est pour ça que je parle des sites. Après, je connais pas le.
Voilà. Oui, le click and order.
Click and collect.
Mais c'est surtout.
Pas au site, au domaine, mais.
Nos auditeurs. Je sais pas.
Je faut quand même que je le dise. Oui. Donc François de Montval, qui était à l'origine avec Florent Gioux, a aussi un restaurant qui s'appelle la Canonnière à Paris. Donc je reste très parisien, mais qui est rue là, je connais que cette nom rue là. Voilà, mais qui est près de métro Goncourt là. C'est un très joli nom de rue, très très français, très parisien. La Fontaine au Roi, voilà, rue de la Fontaine au Roi. Et donc à la Canonnière, on peut, si ce n'est l'acheter sur place, on peut le commander sur place, puisque François de Montval est aussi à l'origine des équilibristes.
Et ben voilà, une idée de thème, une idée d'invité pour la suite. Je sais, juste une incise, mais j'en profite puisque tu parlais des Anglais et des Anglaises. Il y a des Anglais qui nous écoutent, figure-toi. Alors, c'est peut-être des Anglais francophones, hein, des Français qui habitent à Londres. Mais j'ai fait un tour sur les stats et vous savez pas qu'il y a plus de 110 pays dans le monde dans lequel il y a des audiences de la Terre à boire. Alors parfois c'est deux
la
écoutes.
La Terre à boire n'a pas de frontières.
Mais c'est incroyable, le podcast c'est formidable. Et donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en Angleterre et qui voudraient nous dire pourquoi le Picpoul est comme ça une célébrité là-bas, ben qu'ils nous le disent, qu'ils nous écrivent sur les réseaux. Je crois qu'on s'est gardé une petite surprise, un petit bonus pour la fin.
Mince, j'ai pas du tout préparé la suite.
Alors ça y est, la bouteille est ouverte. C'est liquide très foncé, Grenat, voilà, vraiment très foncé.
Ah. Alors,
c'est très beau.
Bon, vous savez ce que c'est. Bon, ça fait partie des.
Peut-être faire deviner à l'auditeur.
À l'aveugle. Voilà, oui.
À l'aveugle.
Vous avez vu la couleur? Eh ben.
Écoutez alors, le bruit.
En fait.
Donc c'est un vin de fin de repas.
Oui.
Ou pas?
Oui.
Oui, quand même.
Plutôt. Oui, plutôt.
Je connais une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner, mais bon, après.
Bon, donc en fait, c'est un de mes petits souvenirs de ma formation à Suze-Larousse. Bon, à chaque fois que j'en parle de Suze-Larousse, il va falloir y aller. Hein. Allez-y, c'est magnifique aussi.
La Drôme provençale.
Donc là, on est à Rasteau. Rasteau, donc un des crus de la vallée du Rhône. On est dans le Rhône méridional.
Poil au-dessus de Châteauneuf-du-Pape.
Oui, on est dans ce coin de Gigondas n'est pas très loin, Vaquieras, enfin voilà, on est dans des régions encore toutes pourries de la France, là. On
a Rhône Sud, rive gauche.
Trop envie de retourner passer des vacances. Et un domaine que j'aime bien, donc je suis allé visiter avec mes petits camarades de promo. Un clin d'œil à Nathalie qui nous a emmené découvrir ce vigneron qui s'appelle Hélin Durand, le domaine de Trapadis.
Et c'était un vigneron et pas Hélène Durand.
Alors effectivement,
quand on lit la bouteille, on pense que c'est Hélène Durand.
Eh ben oui, c'est un homme. Désolé, c'est son prénom s'écrit sans e, donc c'est Hélin. Et donc Rasteau a la particularité d'avoir dans son cahier des charges une appellation. Vin doux naturel de Rasteau. Et c'est ce qu'on a là dans nos verres.
Et qui est un vin doux rouge.
Et oui.
Parce voilà. que souvent, les liquoreux sont,
alors moi, j'ai l'habitude,
sur du blanc.
J'ai l'habitude de proposer à mes clients des moris, donc j'ai l'habitude que ce soit rouge, mais effectivement, souvent, on pense vin doux naturel, ça peut être blanc. Non, là, on est sur du grenache. On est à 90% grenache et 10% carignan. Moi, j'aime beaucoup les vins. J'aime tous les vins, comme vous le savez. Mais j'aime bien les vins doux naturels parce que c'est des choses, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose d'unique qu'on ne valorise pas assez.
Alors moi je trouve qu'en termes de sucre, il n'est pas ultra sucré en plus, il n'est pas du tout écœurant.
Est-ce que du coup, mais c'est vraiment une vraie question, est-ce que les vins doux naturels ou les vins entre guillemets liquoreux rouges n'ont pas naturellement un meilleur équilibre que les vins liquoreux ou les vins naturels blancs? De par le côté tannique des... Est-ce que le côté tannin va pas aller contrer spontanément, naturellement le... Alors, ça aura peut-être un débat qu'au jour.
Tu ouvres un débat. Profondeur.
Mais enfin, de manière générale, c'est vrai que moi, l'impression que j'ai sur des moris, sur effectivement des vins naturels comme celui-là, là, à base de grenache notamment, c'est effectivement ou ceux qu'on avait pu déguster, avec Florence, de Loire, là, qui était aussi assez étonnant. C'était sur un cépage, un cépage rare un peu de Loire.
C'est
que de manière générale que voilà, les vins doux liquoreux sont un peu moins
les rouges.
Ouais, les vins rouges liquoreux ou doux sont plus équilibrés naturellement et la présence du sucre est moins forte en bouche.
Alors, je pense que il y a le fait que alors j'ai aucune réponse hein, mais la différence
mais je vais en faire une.
Non, mais il y a des éléments de réflexion, voyons, soyons sérieux un petit peu s'il vous plaît. Là on est quand même sur des cépages qui sont différents parce que souvent les vins doux naturels qu'on boit en blanc, c'est à base de muscat. Le muscat, c'est quand même un cépage très aromatique, limite entêtant, enfin que beaucoup de gens trouvent un peu trop opulent hein, donc l'image qu'on a des vins doux naturels après.
Et pourtant, t'as un Rivesaltes qui sont pas en hors d'âge.
Alors, après, c'est encore autre chose. Après, t'as les liquoreux. Mm-hmm. Les liquoreux, c'est encore autre chose. Et justement, c'est des méthodes de production qui sont très, très différentes. Là, on...
Rappelle en deux mots le VDN.
Alors, le vin doux naturel, on stoppe la fermentation en ajoutant de l'alcool pur dans le vin.
On mute le vin.
Voilà, on mute effectivement le vin. Donc ça a la particularité de d'arrêter la fermentation en tuant les levures. Hein. Les levures sont submergées par la quantité d'alcool, donc elles meurent. Et en plus, on élève le niveau d'alcool du vin. Donc on préserve du sucre et on monte. Donc on est à 15,5 là par exemple.
Ah oui, ce qui est pas non plus 20 ou 22 quoi. À 15, il y a des Châteauneuf-du-Pape qui font 15 sans être des VDN, des vins doux naturels.
C'est vrai. Mais bon, les vins doux naturels, oui, c'est ça, c'est 15, entre 15 et 16 degrés ouais. souvent. Bon, là après, c'est un grenat, c'est supposé être quand même sur le fruit avant tout, quoi. Et c'est ce qu'on ressent là. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Hein. À l'époque, j'étais étudiant. C'était il y a 4 ans. Mais j'avais cassé ma tirelire en prenant une bouteille de vin.
Et là, pour le coup, c'est le seul vin rouge que tu prends sur un fromage persillé, c'est ça? Par rapport à ta ligne vin blanc, vin blanc.
Ça marche super bien, quoi. C'est vraiment, j'adore ça.
Comme quoi, il y a plein d'exceptions à la règle.
Est-ce que ça marche aussi sur la tarte au chocolat?
Ah oui, je pense, oui. C'est vrai que j'avais l'habitude de proposer mon mori, mais là, ça marcherait bien sur un chocolat, mais un chocolat bien amer, oui. Parce qu'en fait, là, le grenache, les arômes du grenache se marient bien avec le chocolat, oui. Je trouve.
Et puis après, surtout, c'est en fin de repas, c'est un vrai plaisir d'avoir un dernier vin.
Il faut reconnaître que là, on a vraiment quelque chose qui est dans la finesse, quoi, qui est une facilité à boire, ça appelle un deuxième verre, bizarrement.
Oui, c'est pas lourd.
Alors que
c'est
ça fait 50 centilitres, donc.
Moi, j'en ai repris un, malheureusement, mais effectivement, ça appelle un deuxième verre. Donc, c'est très agréable à boire.
Oui, non. Donc, voilà, c'est. On néglige trop Alors, j'ai l'impression de jouer Calimero, là. Alors, l'Alsace, on n'en parle pas assez. Les vins doux naturels, on n'en parle pas assez.
On t'appelait Laurent, ouais.
Non, mais... enfin...
Non, mais c'est bien, défenseur des causes perdues, le vin doux naturel.
Pas que des causes perdues.
Ne l'oubliez pas.
Ce que je veux dire à chaque fois, c'est... on a cette chance inouïe d'avoir un patrimoine viticole, vinicole, immense... En France, en Europe.
Grande diversité.
Une grande diversité. Et que, il n'y a rien de plus dommage que de rester sur un vin.
Sur les standards.
Ou un style de vin. Et le but du jeu, c'est d'expérimenter, de goûter, d'essayer des choses. Et on découvre qu'on adore des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. La dégustation à l'aveugle, bon, dont je suis l'ardent défenseur, en est le bon exemple. C'est que, quand on n'a pas de préjugés, eh ben on s'ouvre à des choses qu'on n'aurait pas prises sur une carte, parce que on n'a pas été formaté, on n'a pas été éduqué pour goûter des choses. Et enfin, trop peu de gens. La curiosité, finalement, c'est un truc dont on se prive souvent.
Est-ce que c'est pas un peu le début de l'œnophilie, en fait, de l'amour du vin? C'est au-delà de j'aime le vin, mais je bois que des Bordeaux. Il y a quelque chose qui va pas dans cette phrase. Tu vois ce que je veux dire? C'est, si, s'intéresser au vin et en faire vraiment un loisir, un plaisir, un goût, c'est s'ouvrir à la diversité des goûts qui sont proposés.
C'est toujours la même chose. Tu pars en vacances, est-ce que tu retournes dans la région que t'adores? Ou est-ce que tu as envie de découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes? Moi, c'est quelque chose auquel je suis confronté tous les jours. Enfin, tous les jours, non, parce que je pars
tu
pas
pars
en vacances
tous les jours.
L'avantage, c'est que le vin est un voyage qui est quand même plus facile à faire rapidement.
Exactement. Donc, non, mais tout à fait.
Parce qu'on voyage quand même plus rarement, c'est un peu plus loin et c'est un peu plus cher.
Tout à fait.
Alors, le ticket de la découverte dans le vin est plus rapide.
On peut voyager avec le vin beaucoup plus facilement. Non, mais c'est en permanence, je pense, la nature humaine d'être systématiquement se poser la question du est-ce que je retourne vers ce que je connais et que je sais que j'aime, ou est-ce que j'essaie des choses nouvelles au risque d'être déçu, mais au risque de trouver des choses qui vont me plaire. C'est philosophique.
Oui, c'est philosophique, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est comme un chemin, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui dirait j'adore le cinéma, mais je regarde que des comédies. Il y a quelque chose où, à un moment, c'est triste, puis c'est antinomique. C'est-à-dire que si tu commences à rentrer dans cet univers, il me semble que t'es forcément appelé par l'envie de découvrir et de goûter des choses qui sont différentes, d'être étonné, d'être surpris.
Côté, moi, j'ai toujours la remarque, pardon pour le truc de bas étage, mais de dire, qu'est-ce que t'aimes dans la musique? Ah ben, j'aime tout. Ouais, t'as pas d'avis, quoi. T'as pas de goût. Non, mais c'est vrai.
Quand on dit que dans la musique.
Moi, j'aime tout.
Oui, c'est ça.
Non, mais bon. Donc après, je pense que la vérité est entre les deux, tout simplement.
Mais
on peut être typé, puis on peut simplement avoir une hiérarchie de choses et puis avoir des choses. Notre Madeleine de Proust, quoi. Il y a un truc hyper réconfortant. Donc, faut trouver cet équilibre entre la Madeleine de Proust.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et la découverte permanente, parce qu'au final, on n'a pas qu'une Madeleine de Proust, on a un paquet de Madeleine de Proust et qu'on peut aller picorer, etc. etc. Donc, il faut aller chercher à chaque fois notre nouvelle Madeleine de Proust dans les découvertes. Donc, je pense que la vérité, encore une fois, on ne peut pas tout aimer, parce qu'on a pas, sinon on n'a pas d'avis. Par contre, on peut créer une hiérarchie.
Oui, mais je maintiens qu'avoir une démarche fermée, c'est contraire à la logique Si on considère le vin comme une, je vais pas dire un art, parce que je considère pas que c'est un art, mais comme une culture à part entière, comme quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse, c'est pas possible de s'arrêter à une seule région. Je veux pas être dictatorial, ça me paraît complètement antinomique.
C'est pas mon école.
Que quand tu creuses, alors après, il y a des effets régionaux. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est vraiment, quand tu parles avec des vignerons en Bourgogne, souvent, ceux auxquels on a parlé, nous, en général, ils aiment aller découvrir et goûter d'autres vins d'autres régions.
Ah oui, je pense que les vignerons sont parmi les plus curieux.
Et il y a rien qu'ils aiment tant que s'échanger des bouteilles. Et s'inspirer de ce qui est fait en Loire, en Corse, à droite,
bien
à gauche,
sûr,
en Nouvelle-Zélande. Enfin, donc cette curiosité-là, moi, il me semble que c'est l'ouverture. En fait, la culture, c'est de l'ouverture. Et donc, si on n'est pas dans l'ouverture à des nouveaux goûts, on peut dire, j'aime pas. Hein, on peut dire, le vin doux naturel, moi, ça me parle pas. C'est pas trop mon truc. Mais voilà, rester fermé sur une région, ça me paraît pas être
pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, il faut goûter.
Ouais, c'est ça. Comme on dit aux enfants.
Non mais
tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as pas goûté.
Voilà, c'est la conclusion de cet
épisode. C'est la conclusion. Ben, il en va de même pour le Trapadis, le vin doux naturel AOP Kéran.
Rasto.
Kéran n'a pas ce vin-là.
Non, c'est non, que non. Rasto. Les seuls vins doux naturels de la vallée du Rhône, c'est Baume de Venise et Rasto.
Et après, il faut aller en
et
Roussillon,
après,
Rivesaltes.
Le grand fief des vins doux naturels, c'est effectivement le Roussillon. Oui. Un peu de Corse, évidemment.
Bagnuls.
Et après, oui, c'est tout Roussillon, Bagnuls, Rivesaltes, Mory.
Oui.
Et oui, dans le sud, quoi, quand même.
Un petit peu de Languedoc avec le Muscat du Minervois aussi.
C'est voilà. Bien pointu, là. Mais effectivement,
oui, non, mais il y a quelques vins doux naturels, mais bon, enfin, c'est la production est tellement un peu mise en avant, quoi. C'est.
Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a.
Les gens boivent plus de Porto que de vins doux naturels. C'est français, c'est quand même dommage.
Mais c'est très bon, le Porto aussi.
C'est vrai que ce sera proche.
Oui, c'est proche du Porto.
Sans le côté rancio, mais ce sera proche pas mal d'un Porto.
C'est très bon, mais bon, le Porto n'est qu'un vin doux naturel fait au Portugal. Non, mais. Et j'aime beaucoup le Porto. Moi, je suis plutôt sur les vins un petit peu vieux. Je suis pas tellement sur le rubis. Je suis plutôt.
Sur le vieux.
Sur le Tony, merci. Tony. Ah ben voilà, je cherchais mon mot. Je suis plutôt sur le Tony, mais là on est plus là avec le vin doux naturel de Rasto en Grenat, là on est plus près d'un rubis que d'un Tony.
Un très joli vin en tout cas. Moi je pense que c'est parfait d'avoir ce genre de vin pour le plaisir, pour finir un repas. Voilà, ça vient compléter la palette et je pense effectivement qu'on n'y pense pas beaucoup. Merci messieurs, je vais rappeler les vins qu'on a dégustés ce soir. Alors je vous rassure, on n'a pas bu toutes les bouteilles, on n'a pas fini les bouteilles. Hein. Dans la première partie de cet épisode, on a commencé avec le Mascombarella et l'Aude aux Ignorants, millésime 2017. En terrasse du Larzac, pardon. Avec le vigneron Olivier Faucon, à qui on a parlé. En Alsace, on a goûté un grand cru Sommerberg de la maison Famille Ebinger.
Donc un Riesling.
Un Riesling.
De 2016.
Denis Ebinger de 2016 en Alsace. Et on a continué avec un Picpoul de Pinet du collectif Les Équilibristes. Voilà.
En 2018.
Et on finit donc sur un vin doux naturel.
Rasto,
Grenat. Dès l'Indurant, donc domaine du Trapadis, et on est sur le millésime 2015.
Et le domaine du Trapadis, on peut recommander à peu près tous les vins, parce que on avait goûté quelque chose
une belle
en
démarche.
Blanc qui était magnifique.
C'est vrai, il y a
un grenage blanc.
Oui, tout à fait. C'est donc un domaine qui travaille super bien.
Merci les amis. On va se retrouver en 2021.
Merci de nous avoir permis de sortir.
Attendez, je vous fais votre papier.
Stop Covid.
Votre petite attestation. Laurent, on espère te voir très vite derrière ton bar et venir boire des coups. On communiquera les dates de la réouverture, pourquoi pas, parce que on sera forcément
là. Ça finira par arriver.
On sera forcément là pour retrouver un petit peu ce comptoir et puis le plaisir de partager des vins, de les découvrir et d'échanger avec ceux qui viendront, ceux qui seront là, qui auront envie, qui partagent comme nous cet amour des jolies choses, des jolis vins. Et puis tu nous feras des dégustations à l'aveugle, puis ce sera formidable. Mais si, ça va bien se passer.
Mais bien sûr, mais je veux bien le croire.
Regarde, il y a des vaccins là.
Dans deux mois.
On est en train de piquer les gens.
On va dire dans deux mois.
Pour que tu puisses ouvrir ton bar.
Ouais.
Allez, on se quitte là-dessus. C'était une bien belle soirée en petit comité, mais il y avait autant de vin. Il y avait plus de vin que de personnes. C'est ça qui est pas mal.
Je te rappelle que le vin est une personne.
Ah, ça y est, nouveau débat.
Non, c'est
qu'on va pas ouvrir.
Le vin est un sujet.
On va se souhaiter et surtout souhaiter aux auditeurs, aux auditrices, de bonnes fêtes de fin d'année. Tous nos vœux pour 2021. Merci d'être fidèle à la Terre à Boire. À l'année prochaine.
Au revoir.
Bisous.
À bientôt.
Salut, bonne fête, bonne fin d'année. Ciao.
Love.